please.
Prions.
Dear Lord, thank you for this night. I pray that you
Cher Seigneur, merci pour cette soirée. Bénis mes paroles. Et bénis ce culte au nom de Jésus. Amen. Donc j'étais en Hongrie pendant 10 mois. Je suis rentrée la semaine dernière et c'est chouette d'être à la maison. J'avais juste une pensée pendant mon expérience là-bas. Je suis allée à beaucoup d'endroits différents en Hongrie et dans l'Europe. Je suis allée dans beaucoup de pays différents. J'ai eu une super expérience en Ukraine, en République tchèque, en Pologne, en Autriche plusieurs fois. Et il y a juste un verset qui me venait à l'esprit il y a peut-être quelques mois. C'est juste été sur mon cœur. C'est Matthieu 5, verset 14. Et ça dit « Vous êtes la lumière du monde. » Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et j'ai juste pensé, je suis allée dans beaucoup d'endroits du monde. J'ai vu beaucoup de personnes dans nos églises. Beaucoup d'entre elles sont d'ailleurs ici ce soir. Et j'ai juste vu la lumière du monde, et nous sommes la lumière du monde. Et Dieu m'a juste montré ça, avec une toute nouvelle perspective. J'aurais jamais cru que j'étais capable d'aller en Ukraine et rencontrer les gens là-bas. Et je les ai vus, et je les connaîtrai pour le reste de ma vie. Je suis allée dans leur maison, j'ai dormi sur leur canapé, j'ai mangé le petit déjeuner avec eux, et ensuite je suis rentrée à la maison. Et c'était même pas bizarre, parce que c'était comme la lumière que j'ai en moi était en communion avec la lumière qu'ils avaient en eux. Et ensuite, on y retournait plusieurs fois, et c'était juste quelque chose de merveilleux. Et au verset suivant, il est dit, « On n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier, et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. » Et ce ministère, c'est vraiment ce qu'il fait. Il ne met pas la lumière sous le boisseau. Et c'est un grand honneur d'en faire partie. Et juste la lumière que nous avons les uns avec les autres, le Saint-Esprit, c'est comme s'il transpirait à travers nos pores. On ne réalise même pas le ministère qu'on a les uns envers les autres. En Jean 1, verset 5, j'ai oublié le verset. Les ténèbres n'ont pas compris la lumière. Ils ont vu qu'il y a quelque chose. Les gens voient qu'il y a quelque chose de différent à propos de nous. Ils ne savent pas ce que c'est, ils ne peuvent pas mettre le doigt dessus, mais il y a quelque chose de différent à propos de nous, vous savez. Et ensuite, on peut leur dire ce qui est différent à propos de nous. C'est que j'ai Jésus-Christ dans mon cœur. Et je reçois la parole que je reçois à l'église et dans les églises tout autour du monde. Et c'est une lampe qui est tout le temps allumée, comme dans le temple ou dans l'Ancien Testament. Une lampe qui est allumée par l'huile du Saint-Esprit qui vient en permanence dans notre vie et qui nous fait briller. Et c'est juste l'idée qui a été sur mon cœur ces derniers temps. Vous avez des salutations de tout le monde en Hongrie, beaucoup de gens qui aimeraient être ici, qui n'ont pas pu venir. Gardez chacun dans vos prières. En Ukraine, il y a un jeune pasteur à Ujgorod qui fait un super travail là-bas. Ça a été un privilège d'être là-bas. Ils ont eu leur premier culte à Ujgorod en Ukraine. On est allé à 8 personnes et il y avait une vingtaine de personnes à leur premier culte. Et c'était un temps extraordinaire. Priez pour l'Autriche aussi, le travail là-bas. Donc c'est chouette d'être à la maison. Et c'est un privilège de parler à ce pupitre. Passez une belle soirée. Ouvrez vos Bibles en Philippiens, chapitre 3. J'ai demandé à Pasteur Boyce de partager ce soir parce qu'il s'en va demain. Donc c'est lui qui va finir le culte ce soir. Ouvrez vos Bibles en Philippiens 3 avec moi. Et nous allons lire que Dieu ne doit pas être trop petit. Il ne doit pas être petit du tout. Est-ce que vous réalisez que bien souvent, en tant que croyants, nous adoptons une forme et des concepts qui limitent Dieu? Nous lisons ça dans le psaume 78, qu'ils ont limité le Saint d'Israël. Ils n'ont pas cru que Dieu pouvait préparer une table dans le désert. En tant que croyant, j'ai lu ma Bible, j'évangélise, je vais au culte à l'église, je vais aux réunions de prière, et pourtant, au milieu de toutes ces bonnes activités, et aussi même la foi, je peux me trouver vide, blessé, et je peux avoir des besoins. Et je peux me demander qu'est-ce qui ne va pas avec moi, alors que je fais tout ce que je dois faire. Je m'approche de Dieu dans une vie de foi, mais je me demande pourquoi je ne trouve pas plus de satisfaction, une communion profonde. Pourquoi? Et je voudrais que vous lisiez ce chapitre avec moi, Philippiens 3, et nous allons en parler. Verset 1er, « Au reste, mes frères, réjouissez-vous dans le Seigneur. Je ne me lasse point de vous écrire les mêmes choses. Et pour vous, cela est salutaire, de vous écrire encore et encore. » Pour l'apôtre, ça n'était pas un problème pour lui, parce qu'il les aimait. Verset 2, « Prenez garde aux chiens, prenez garde aux mauvais ouvriers, prenez garde aux faux circoncis. » Le mot, c'est la concision, et ça signifie des gens qui mutilent, des mutilateurs, les gens qui mutilent la chair. Ça parle de la circoncision que les Juifs pratiquaient. Et il fait référence aux judaïsants qui, après être convertis, quand Paul va quelque part et qu'il évangélise, après lui, il y avait des légalistes qui passaient et ils amenaient les croyants dans un concept de Dieu qui était plus étroit, le légalisme. Le légalisme, c'est une fonction du cœur. C'est aussi une fonction de l'enseignement. Mais Paul dit au verset 3, « Car les circoncis, c'est nous. » Il veut dire que la vraie circoncision, c'est nous. Jérémie parle de la circoncision des lèvres. En Deutéronome, Moïse parle de la circoncision du cœur, non de la chair. Mais l'opération de Dieu qui se passe chez le croyant à travers la nouvelle naissance, par l'œuvre de la grâce, quand Dieu lui-même change nos vies. Nous sommes la vraie circoncision, nous qui rendons à Dieu notre culte par l'Esprit de Dieu, qui nous glorifions en Jésus-Christ et qui ne mettons point notre confiance en la chair. C'est la clé pour un vrai changement dans notre vie. C'est que nous réalisions que ceci est une œuvre de grâce que Dieu fait et que notre place dans cette œuvre, c'est vraiment de croire. Verset 4. Moi aussi, cependant, j'aurais sujet de mettre ma confiance en la chair. Si quelqu'un croit pouvoir se confier en la chair, je le puis bien davantage. Moi, circoncis le huitième jour, de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu, né d'hébreu. Quant à la loi, pharisien. Il pouvait être très fier de son héritage, de son arrière-plan familial, de son nom, de ses activités, de sa vie parfaite en tant que pharisien, sans reproche concernant la loi, irréprochable à l'égard de la justice de la loi. Verset 6. Quant au zèle, persécuteur de l'Église, irréprochable à l'égard de la justice de la loi. Il gardait la loi parfaitement. Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, c'est une phrase intéressante. Toutes les choses que dans ma propre pensée, quand je pense à ma vie, toutes les choses que je considérais être un gain dans le naturel, j'ai décidé de les regarder comme une perte à cause de Christ. C'est extraordinaire. Cette attitude. Je suis un pharisien, mais ça ne m'importe peu maintenant. Parce que c'est vraiment enraciné dans l'orgueil. Je suis de la tribu de Benjamin, mais ça m'importe peu maintenant. J'ai été circoncis dans mon cœur. Je suis né de nouveau. Dieu lui-même est dans mon cœur. En ce qui concerne la justice, je n'ai jamais commis l'adultère, je n'ai jamais rien volé, je n'ai pas commis de meurtre, je n'ai jamais rompu la loi, je n'ai jamais transgressé la loi de cette manière, mais ça n'a pas beaucoup d'importance à mes yeux. Je considère ma biographie comme n'étant rien qui ait quelque valeur que ce soit. Verset 8. Et même je regarde toute chose comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ. Est-ce qu'il est en train de dire que dans mon attitude, que mon attitude est importante dans ma vie, mon attitude concernant moi-même et comment je me vois moi-même devant Dieu, et à la lumière de Dieu, ces choses qui sont si importantes pour moi, elles ne sont plus importantes pour moi. Je veux les perdre. Je veux perdre ces choses pour gagner quelque chose d'autre. C'est ce que j'ai décidé dans mon cœur. C'est ce que Paul dit. On appelle ça la croix. La croix, c'est quand nous disons dans notre vie naturelle, et en tant que croyant, on peut tous faire ça, on peut tenter Dieu et on peut dire, Seigneur, tu ne m'as pas donné ça et tu ne m'as pas fait ça pour moi et tu n'as pas fait ça pour moi et je ne crois pas que tu puisses faire ça pour moi et tu m'as déçu. On peut tous faire ça, comme en 1 Corinthiens 10 où on peut dire comme Paul, j'apporte tout. Même mes concepts à propos de Dieu, je les amène à la croix parce que je ne le connais pas vraiment. Et si tu me blesses, Seigneur, peut-être je ne comprends pas pourquoi tu le fais, mais même ça, je l'amène à la croix parce que je crois que tu es plus grand que tout ce que je pourrais jamais comprendre. Tu es Dieu. Je crois que je voudrais perdre n'importe quoi pour te gagner, toi. Je pourrais perdre mes talents, mon histoire, mon arrière-plan, mes blessures, mes déceptions. Je peux perdre tous mes petits concepts de cette vie. Et c'est ce qu'il dit. Et il l'a fait. Il avait beaucoup de raisons de lutter et de conserver et de se défendre et d'avoir raison comme un homme juste mais il était brisé. Et il a dit, tout ceci, je veux le perdre pour gagner quelque chose d'autre. Verset 9. Afin de gagner Christ, c'est la fin du verset 8. Ces choses, je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ. Il semble que c'est ça le sujet de nos vies. C'est d'être rempli du Saint-Esprit et de gagner Christ. Il semble que si nous vivons notre vie, mais que nous ne le gagnons pas lui, alors nous avons raté notre vie. Si nous avons raison, encore raison et encore raison, on a nos idées, nos concepts, et Dieu est peut-être un policier. Il y a un livre qui a été écrit, c'est « Notre Dieu est trop petit ». Quand Dieu est comme un assistant social ou un policier ou ma conscience ou un Dieu légaliste comme celui du peuple juif. Et quand Jésus est venu sur la terre, il surprenait les gens en permanence, en ressuscitant les morts, en marchant sur l'eau, en nourrissant les 5000 personnes et en pardonnant 70 fois 7 fois par jour. Et en aimant les gens avec un amour que personne n'avait jamais vu avant, un amour qui est un amour de vérité et pas un amour d'être humain. Et c'est un autre concept de Dieu qui déçoit les gens. Les gens disent, je pense que Dieu était un Dieu d'amour. Et la réponse c'est oui, c'est un Dieu d'amour. Mais nous sommes différents de lui. Et notre amour à nous est trop petit comparé à l'amour de Dieu. Paul a dit au verset 9 qu'il voulait gagner Christ et être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi. Ainsi je connaîtrai Christ et la puissance de sa résurrection. On a une conférence dans quelques jours. Et ça va être une semaine unique. On a eu des semaines uniques, des mois uniques, des années uniques. Et c'est quelque chose de tellement extraordinaire de se rassembler avec des gens qui gagnent Christ et qui ont trouvé que je le connaisse, lui, et la puissance de sa résurrection. La puissance de sa résurrection. D'une certaine façon, ça dépasse nos concepts chrétiens. Et je pense à nous en tant que peuple de Greater Grace. On est en général très occupés, très actifs. On aime la communion, on reçoit de l'enseignement. On s'assied sur nos chaises, on est des adorateurs de Dieu, on est encouragé, on est touché, on est motivé. Mais combien de temps ça dure? Et on peut se dévier et commencer à adopter une méthode, un comportement, un programme, et peut-être même croire que c'est ça Dieu. Et d'une certaine façon, bien sûr, Dieu est là-dedans. Mais je veux vous encourager. Quand vous ressentez ce vide, il y a un Dieu. Il y a un baume en Galaad. Il y a une croix. Il y a un chemin. Et c'est ce que Paul dit dans son cœur quand il écrit aux Philippiens. Il était en prison. Il était en train de dire, je veux le gagner et rien ne pourra m'arrêter. Mais ce n'est pas mon ambition, c'est ce que je crois. Que Dieu va me visiter, que Dieu est bon envers moi, que Dieu va me remplir, que Dieu va me satisfaire et qu'il ne me manquera jamais. Et il dit ici, peu importe ce que ça me coûte, peu importe ce que ça me coûte, pensez à ça. Je peux faire tout ce qui est du domaine du comportement, mais ne payer aucun prix. Je peux apprendre la vie chrétienne, le langage, lire ma Bible, venir à l'église, faire les activités, mais ensuite ça ne me coûte rien si ce n'est mon temps et ma capacité à apprendre le comportement. Je ne veux pas condamner qui que ce soit d'entre nous. Je voudrais juste vous aider à penser à ces choses et arriver à quelque chose de plus libérateur. Et c'est ceci. J'ai dit au Seigneur, et je suis sûre que vous l'avez fait vous aussi, je suis fini. J'y arriverai jamais. C'est fini. C'est fini. Je te veux juste toi, Seigneur. Je te veux juste toi. J'ai faim de toi. Et le Seigneur dit, qu'est-ce que ça va te coûter? Et je dis dans mon cœur, j'ai tellement faim de toi parce que je crois que si je pouvais te connaître, ça me satisferait complètement. Il n'y a rien du tout à quoi je peux m'accrocher qui pourrait avoir plus de valeur que ce que je vais gagner. Si je pouvais perdre tout ce que j'ai et tout ce que je suis, je sais que je te gagnerai toi, que je te connaîtrai toi et la puissance de ta résurrection dans ma vie, la communion de tes souffrances. Et ensuite, je deviendrai conforme à toi, sous Morpheo. C'est la conformité à sa mort. Ça n'a pas l'air très tentant. Mais quand ça commence par le connaître, lui, et la puissance de sa résurrection, alors les souffrances sont vraiment un privilège. Et le fait d'être rendu conforme à sa mort, par quelque moyen que ce soit, verset 11, pour parvenir, si je puis, à la résurrection d'entre les morts, ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose. Donc vous n'êtes pas arrivé. Vous n'êtes pas arrivé. C'est comme ça, je saisis quelque chose de Dieu, je saisis quelque chose de mon appel, et j'avance comme ça, et tout d'un coup c'est comme si c'était parti. Et je dis, où est mon appel? Où est Dieu? Où est Dieu? Je vais à Greater Grace. Où est Dieu? Tous les gens que je vois, ils ont l'air de passer un moment tellement extraordinaire. Et moi, qu'est-ce qui m'arrive? Où est Dieu? Et j'avais mes mains, je pouvais presque le toucher, il était tellement réel, tellement merveilleux pour moi. Et d'une façon ou d'une autre, tout d'un coup, il est parti, comme dans le Cantique des Cantiques. Dans le livre du Cantique des Cantiques. Où est-il parti? Pourquoi Dieu fait-il cela? Parce qu'il nous a appelés à la foi et à le connaître à travers la mort. C'est vraiment la mort. Mais j'ai mes problèmes. Je vais à la croix. J'ai mes défenses, mes raisons, mes excuses. Et le Seigneur dit, suis-moi, est-ce que tu veux me connaître? Alors meurs. Et je dis, je ne veux pas mourir. Et le Seigneur dit, c'est d'accord, je t'aime, je te sers, je répondrai à tes prières, je te dirigerai, mais j'aimerais quand même aussi que tu saches que tu me limites, tu me fais trop petit. Si je vais devenir trop petit pour toi et tu vas t'en aller, mais si tu me connaissais, alors tu deviendrais un adorateur et tu réaliserais que je suis Dieu, tu es mon peuple. Et il n'y a rien que je ne puisse faire pour toi. Tu vas apprendre la patience, mais ça en vaut la peine. Tu vas, verset 14, courir vers le but. Verset 13, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Quelle biographie! Où vas-tu, Paul? Je suis Dieu. Est-ce que tu es un pasteur? Oui, je suis un pasteur. C'est bien, mais il y a quelque chose de plus. Je suis Dieu, je cours après Dieu. Tu connais la Bible? Oui, je connais l'Ancien Testament très bien, mais ça ne suffit pas, je suis Dieu. Mais est-ce que tu as été blessé par les gens? Oui, mais ce n'est pas ça le problème. C'est vrai, ça me blesse. Mais d'autant plus, je vais courir après Dieu, parce que je sais qui il est. Et il est merveilleux. Et c'est de là que vient notre louange. Notre louange vient du fait que nous réalisons la nature, les attributs, le ministère de Dieu. Comme Jésus vient vers nous et il passe à travers le mur et il comble nos besoins. Il vient vers nous et il lave nos pieds. Il vient vers nous et il nous pardonne de tous nos péchés, passés, présents et futurs. Jésus vient à nous et nous réalisons que c'est tellement extraordinaire. Et le ministère, c'est juste ce qui déborde de nous. Dieu est tellement merveilleux qu'il y a des louanges dans nos bouches. Le chant fait partie de notre vie. Les réunions de prière bougent les montagnes. Nous nous aimons les uns les autres. Mais si on enlève Dieu de tout cela, il ne reste qu'une forme. Et où est la puissance? On a le comportement, on a le christianisme, mais où est Dieu? Où est le Dieu des chrétiens? Où est-il? Et nous le perdons. Je dis que nous pouvons le perdre de vue. Les pasteurs et des prédicateurs et les gens de la Bible et les étudiants de la Bible, on peut tous rentrer là-dedans. Mais Seigneur, on n'est pas intéressé, on veut coûter un grand prix, on veut payer un grand prix pour pouvoir donner beaucoup, mais ça n'est pas pour nous, c'est pour ta gloire. Et que nous vivions dans le grand bénéfice d'être participants de ta gloire. Je crois que nous devons apprendre comment nous débarrasser de certaines choses et nous revêtir du Seigneur Jésus-Christ. Comment nous débarrasser des choses qui font de Dieu un Dieu trop petit et dire, oh non, comme en Finlande, comme Dr. Calais en Finlande. Je me rappelle les jours où j'étais en Finlande et j'avais besoin de me débarrasser de toutes ces choses qui étaient autour de moi dans l'environnement et dans le monde. Me débarrasser de ces choses et dire, oh non, à travers la mort il y a de la vie, à travers la mort il y a la résurrection, à travers la mort il y a la connaissance de Dieu. Et quand nous avons une connaissance de Dieu, nous avons un ministère dans le café, nous avons un ministère à l'arrêt de bus, nous avons un ministère chez un marchand quelque part, et dans des endroits reculés, à travers la mort, il y a la vie. Nous sommes trop bons pour devenir professionnels et adopter un christianisme qui ne signifie rien. Quand on devient un professionnel, alors on va vivre une vie différente. Nous sommes chrétiens, nous mettons des vêtements chrétiens, mais dans nos cœurs, nous ne sommes pas satisfaits. Et alors, on va continuer à chercher pour quelque chose qui pourrait satisfaire notre cœur. Et on dit, oui, je connais le christianisme, je connais. D'accord, très bien. J'ai entendu parler de pasteurs qui vont jouer au golf. Et quand quelqu'un veut essayer de partager un verset biblique, l'autre lui répond, non, on ne parle pas de notre travail ici, on est là pour jouer au golf. Je ne parle pas de nos pasteurs, mais c'est un homme qui était avec eux. Et ça pourrait se passer. D'où cela vient-il? C'est moi, c'est pas juste lui, c'est moi. Quand j'apprends comment faire les choses et que je l'adopte sans la mort. Alors on dit, non, ça ne m'intéresse pas. Rien ne m'intéresse si ça ne va pas me sauver, me guérir, me parler, me remplir, me satisfaire. Alors qu'est-ce qu'on fait? Mais Paul dit, je cours vers le but, verset 14, pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. C'est pour ça que je vais de l'avant. Il n'y a pas de méthode, il n'y a pas de procédure avec les étapes 3, 4, 5. Il n'y a pas d'autre chemin, si ce n'est dans notre cœur, d'aller devant Dieu et de dire, Seigneur, tu peux avoir Isaac. J'aime Isaac, mais tu peux l'avoir. Il est mon fils, mais tu me dis, donne-moi Isaac. Alors je te donnerai mon Isaac. Je te donne ma vie. Je te fais confiance. Montre-moi à quel point tu es grand. Isaac est ressuscité d'entre les morts. Et Christ nous montre, et il pleure sur cette terre, sachant que la gloire de Dieu est couverte et que nous limitons le Saint d'Israël. Et nous disons, Dieu ne peut pas me délivrer de mes péchés, il ne peut pas changer mes mauvaises habitudes, il ne peut pas briser les liens de mon âme, il ne peut pas briser l'ennui qu'il y a dans mon cœur, il ne peut pas vraiment me remplir et me satisfaire, élever mes yeux vers le Dieu vivant, mais il peut le faire. Verset 15, il dit, nous tous donc qui sommes des hommes faits, ayons cette même pensée. Ça demande d'être mûr de penser ainsi. Et si vous êtes en quelque point d'un autre avis, Dieu vous éclairera aussi là-dessus. Dieu vous montrera à quel point vous êtes charnel. Il nous révèle et il nous parle à ce sujet. Seulement au point où nous sommes parvenus, marchons d'un même pas. Verset 17. Soyez tous mes imitateurs, frères, et portez les regards sur ceux qui marchent selon le modèle que vous avez en nous. Car il en est plusieurs qui marchent, et ce sont des chrétiens, des Philippiens, des Corinthiens, des Romains. Il en est plusieurs qui marchent en ennemi de la croix de Christ. Je vous en ai souvent parlé et j'en parle maintenant encore en pleurant. Ils n'ont pas la croix. Quand vous prenez votre voiture et que vous fermez la porte, vous dites, Seigneur, c'est ta voiture. Et quand vous allez à la maison, votre maison, et que vous fermez la porte, vous dites, Seigneur, c'est ta maison. Et quand vous réveillez vos enfants le matin, vous dites, Seigneur, ce sont tes enfants. Et quand vous prenez de l'argent à la banque, vous dites, Seigneur, c'est ton argent. Quand vous mangez votre nourriture, vous dites, Seigneur, merci parce que c'est ta nourriture, je te remercie. Et quand vous vous asseyez et que vous utilisez votre temps, vous dites, Seigneur, c'est ton temps, c'est ta vie, c'est ton opportunité, je suis ton serviteur, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je veux te suivre et prendre ma croix dans ma vie. Parce que je crois que si je te place en premier, tu es un grand Dieu, tu es un Dieu merveilleux. Tu me donneras non seulement cette maison, je suis un intendant de cette maison, et de quoi que ce soit que j'ai dans mes mains. Moïse, qu'est-ce que tu as dans tes mains? Il a dit une verge, et il lui a dit, jette-la. Et il l'a jetée, elle est devenue un serpent. Et c'est vraiment ce que sont toutes les choses que nous possédons. Si nous ne les jetons pas par terre, et après, il lui a dit, prends-la par la queue. Et quand il l'a fait, elle est redevenue une verge, mais c'était une verge différente maintenant. C'était la verge qui a divisé la mer Rouge, la verge qui a frappé les serpents en Égypte, la verge avec laquelle il a frappé le rocher, il en est sorti de l'eau. C'était une verge différente. Et c'est la même chose dans notre vie. Nous disons, si nous pouvons le perdre et vivre dans ce genre de foi, alors nous allons découvrir la connaissance de Dieu et la puissance de sa résurrection. Et ensuite, il dit au verset 19, « Leur fin sera la perdition. Ils ont pour Dieu leur ventre. Ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Mais nous, nous sommes citoyens des cieux. » Notre mode de vie se trouve au ciel, d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ. Et ensuite il passe verset 21 à qui, Jésus-Christ qui transformera le corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire par le pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes choses. Il dit, cette même puissance que je ressens dans ma vie quotidienne, je sais qu'elle pourra changer mon corps quand il sera dans la tombe. Cette même puissance. Et si cette puissance va changer mon corps qui sera dans la tombe, alors je crois que je peux être participant de cette même puissance maintenant pendant cette vie. Je crois que je peux connaître la puissance de sa résurrection. Je peux le connaître. Et c'est ce qu'il dit. Et je ressens ça dans notre église pendant ces jours-ci. Je ressens que Dieu est en train de verser. Il y a un mouvement de Dieu en Inde, au Népal, dans différents endroits du monde, en Afrique. Je crois que nous avons trouvé quelque chose. Ça nous coûte. Mais quand nous avons trouvé quelque chose en quoi nous glorifier, nous disons c'est merveilleux, c'est puissant. Mais faisons attention à notre cœur humain. Parce que nous glissons si facilement à commencer à nous protéger nous-mêmes et à gagner nous-mêmes au lieu de nous perdre nous-mêmes. De nous défendre et de nous garder, de nous protéger et d'adapter des méthodes et des formes sans avoir la puissance. Mais une réunion de prière qui vient de Dieu dans votre cœur, quand vous allez à Dieu, peut-être ce soir quand vous rentrerez chez vous, et vous avez juste cette attitude de vous livrer et dans votre cœur de vous réjouir grandement dans tout ce que Dieu vous a donné. Mettez votre cœur et votre pensée sur ces choses qui vont illuminer votre pensée. Et dites, notre Dieu est un Dieu merveilleux, il l'est vraiment, nous pouvons le sentir et nous le savons dans nos cœurs. Et je crois que le Saint-Esprit va nous oindre dans l'Assemblée comme il le fait ces jours-ci. Et je pense que pendant la conférence, le Saint-Esprit va vraiment être versé sur la congrégation. Je pense qu'il va y avoir vraiment des émotions, de louanges, des larmes, une instruction divine. Je pense qu'il y aura des convictions et de la repentance et des transformations. Et je dis non, Dieu est plus important que mon péché. Je choisis Dieu. Dieu peut faire cela, je le crois. Et dans ma vie personnelle, donne-moi une motivation et une discipline dans la parole. Et que je prenne ma croix à quel point ? Chaque jour. Il est dit chaque jour. Prendre ma croix tous les jours. Et trouver la puissance de sa résurrection. Et alors la vie de l'Église, c'est plus que juste des chaises, c'est plus que cette belle salle et cette belle plateforme. C'est plus que les choses que nous faisons, c'est plus que notre comportement, c'est plus que nos activités, c'est plus que le parking et les choses dans le programme que nous avons dans notre vie quotidienne. Mais c'est lui. C'est lui dans toutes ces choses. Nous nous réveillons le matin et nous savons que Dieu est dans notre chambre. Nous allons nous coucher tard le soir, un lundi soir, et nous disons, Seigneur, rien ne m'intéresse dans ce monde plus que toi. Je crois que tu peux me surprendre avec ta présence et ta puissance. J'ai désiré une chose, Seigneur, et je la rechercherai. C'est de demeurer dans la maison de Dieu et de contempler ta gloire et de m'enquérir. De poser des questions divines, de m'enquérir des choses de Dieu et de recevoir des réponses divines. Waouh! Quelle vie! C'est pour ça que nous ne sommes jamais épuisés. Nous ne pouvons pas nous fatiguer vraiment. Et si ça nous arrive, nous savons où aller. Et nous pouvons nous attendre à Dieu et lui faire confiance. Et il renouvellera nos forces et il nous donnera une vitalité et une autorité. Et peu importe la situation, la promesse par l'apôtre Paul, par sa vie, c'est cette seule chose. Je vais oublier les choses qui sont derrière moi. Je ne vais jamais y retourner. Je n'ai même pas le temps. Je vais arrêter de regarder ce qui est derrière et je vais aller de l'avant et je vais courir vers le but et je vais le gagner, lui. Je sais que je vais le faire. Je vais le gagner. Et je vais juste vous dire cette petite histoire à propos de Richard Wurmbrand. Il l'a partagée avec moi. J'en ai parlé déjà au rap à différents endroits. C'est assez intéressant. Il était torturé en Roumanie et son bourreau lui urinait sur sa tête. Il était en train d'uriner sur sa tête. Il était par terre en train de prier et il a dit à Dieu dans sa prière, il a dit, Seigneur, si cet homme devenait un croyant, alors ça serait comme une huile pour moi, une huile sur ma tête. Quelle histoire, quelle pensée, quel genre de pensée Richard Wurmbrand avait. Comment pouvait-il dire une chose pareille? Qu'était-il en train de penser? Il disait, je veux perdre mon amertume, ma colère, ma chair, ma défense, et je veux penser à propos du... Je veux penser juste au but de Dieu, au plan de Dieu. Et je veux croire que si Dieu est là-dedans, alors je verrai sa gloire. Je connais la puissance de sa résurrection, la communion de ses souffrances, et je le connaîtrai, lui. Et même si j'ai l'air d'un fou, je sais qu'à l'intérieur, j'ai cette gloire et cette puissance et cette autorité. Et il a écrit ces choses, comme l'apôtre Paul l'a fait quand il a dit, « Je suis un prisonnier du Seigneur. » C'est comme ça que la croix peut changer votre vie. Et si nous n'avons pas la croix, nous avons juste une forme, et nous pouvons vivre dans un comportement, être des gens moraux. Mais où est le mystère? Où est la puissance? Où est l'autorité? Où est la prière? Où est le fait de faire des disciples? Où est cette manifestation de la présence de Dieu, si merveilleuse, si étincelante? Où est-elle? On est juste devenus, vous savez, des chrétiens. Et alors quand on est blessé, on se met en colère. Quand quelqu'un nous vole quelque chose, on veut le détruire. Quand quelqu'un nous blesse, on veut le blesser. Œil pour œil, dent pour dent. Quand Dieu devient si petit pour nous, il devient comme nous et nous perdons notre témoignage. Mais si Dieu est Dieu et que vous et moi, nous sommes ses serviteurs, nous sommes son peuple, si vous et moi, nous avons perdu quelque chose, alors nous avons gagné quelque chose et nous savons ce que c'est. C'est rien de moins que Dieu. Et c'est ce que nous avons. C'est vraiment ce que nous avons. Nous l'avons et nous le savons. Et je le sais. Et donc jour après jour, semaine après semaine, mois après mois, nous disons juste « Waouh !» Merveilleux. Est-ce que vous voulez prier avec moi? Si vous êtes ici ce soir et que vous voudriez avoir Jésus dans votre cœur, dites à Jésus-Christ « Je t'accepte personnellement comme mon Sauveur. » Dites-lui par la foi, « Seigneur Jésus, viens dans mon cœur, sois mon Sauveur. » Sur Internet, « Seigneur Jésus, viens dans mon cœur, sois mon Sauveur. » Levez la main, s'il vous plaît. Y a-t-il quelqu'un? Oui, Seigneur, merci, au nom de Jésus. Qu'est-ce qu'on peut dire après ça? Je me rappelle où des moments où pasteur demandait à différents prédicateurs de parler après lui. Et je me sens pareil ce soir. Mais je voulais juste dire cette chose, très simplement. Je suis tellement heureux d'être venu ici pour le service pour les funérailles de Pasteur Steven samedi. C'était tellement beau. Et je vais vous dire pourquoi. Il y a quelque chose que nous expérimentons qu'on ne peut pas goûter par Internet. Un esprit dans l'Église, une onction, une atmosphère. Et c'était tellement glorieux. Je suis sûre que tout le monde est d'accord avec moi. Alors que j'étais assis dans la congrégation, une pensée m'est venue à l'esprit et est restée avec moi. Vous savez, on a vu toutes ces images sur l'écran de la vie de pasteur Stevens.
What was the like the story that went through everything?
Et quelle était l'histoire qui unissait toutes ces images les unes avec les autres? C'était, voilà ce qui a de l'importance. Voilà ce, la chose importante. Et vous savez, il y a beaucoup d'autres choses qui auraient pu être dites. Les souffrances, les difficultés, les persécutions, beaucoup d'autres choses. Mais ce n'est pas ce qui importe. Ce qui importe, c'est la gloire. Ce qui importe, c'est les âmes. Ce qui importe, c'est les précieux frères d'Afrique. C'est ça qui importe. Tout le reste, ça va s'estomper, ça va disparaître. Je veux juste lire ce verset en Romains 8, verset 18. Parce que c'est une conclusion à ce que nous expérimentons, je crois, ce que j'expérimente. Je vais le lire dans la version amplifiée. Il dit ceci. J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous et en nous, et qui nous sera conférée. C'est ça, c'est la gloire. Ouvre la fenêtre, Seigneur, laisse-moi voir juste une minute ce qu'il y a derrière le rideau, derrière le voile. C'est la gloire. La légère affliction du moment est juste en train de passer et elle vaut vraiment la peine de la gloire qui va être révélée. C'est quelque chose d'extraordinaire. 1 Pierre, chapitre 5, verset 1. Pierre parle. Pierre dit, je suis aussi un ancien et un témoin des souffrances de Christ. Et ensuite, il ajoute quelque chose qui est extraordinaire. Et c'est tellement incroyable. Il dit, et je suis aussi un participant de la gloire qui doit être manifestée. Et pensez juste un instant. Pensez en arrière, quelques années avant, quand il était sur la montagne de la Transfiguration. Et quand il a vu la manifestation de la gloire, il a dit, « Oh, et si on faisait des tentes ?» Mais maintenant, il dit, « Ici, moi, je connais, en moi, je suis participant de la gloire de Dieu. Il y a une manifestation de la gloire en moi. » Et on peut dire ça ici, ce soir. Ce n'est pas à propos des troubles ou des difficultés. Ce n'est pas le problème. Mais c'est la gloire qui compte. Et je crois de tout mon cœur que c'est ce que Pasteur Stevens nous dirait ce soir. Il dirait, tout le reste, mettez-le de côté. Ça ne signifie rien. C'est juste une légère affliction d'un moment. Paul dit, comptez ces choses. Calculez. Ça ne vaut pas la peine d'être comparé. Vous ne pouvez même pas le mettre sur la même balance. Si Dieu vous montrait ce soir ce que c'est que la gloire, toute ma perspective de la vie serait changée en un moment. Et c'est ce que nous avons vu samedi après-midi. Le fruit d'un homme qui a vu la gloire. Et je dis juste à chacun d'entre vous ce soir, et moi-même inclus, Seigneur, garde mes regards sur ta gloire, parce qu'elle va être révélée en nous. Et on ne peut même pas imaginer cela. Mais c'est la vérité. C'est à nous. Que Dieu soit loué. Amen.